de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, je m'appelle Dewi, je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. La danse Sining et la nourriture Goutel deviennent un patrimoine culturel immatériel. Ria Mizard souligne que la Papouasie fait partie intégrante de l'Indonésie. En avril 2020, l'aéroport YIA est prêt pour les vols internationaux. Bone Bolango organisera 5 ans festival en 2020. L'exposition maritime indonésienne promeut les opportunités du secteur maritime en Indonésie. Voici le bulletin complet. Le ministère de l'Éducation et de la Culture a désigné la danse Sining et la nourriture Goutel de la région d'Aceh Sangkal, la province Aceh, comme patrimoine culturel immatériel. Le responsable des relations publiques du secrétaire régional d'Aceh Sangkal, Salman Nuri à Banda Aceh, a déclaré que la détermination avait été prise via la remise des certificats par le ministre des Affaires intérieures, Cahyo Kumolo, lors de la soirée de réception pour la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel. La danse Sining est l'une des danses originaires du haut plateau de Gayo, qui présente de beaux mouvements énergiques et dynamiques qui décrivent et imitent les mouvements d'oiseaux wo ou de tetra. Cette danse a pour philosophie la force, l'ombre, la paix et l'harmonie entre les habitants et la nature. Le ministre de la Défense, le général TNI à la retraite, Ria Mizard Triakudu, a souligné que la Papouasie était une partie intégrante de l'Indonésie qui était finale. Il n'était plus nécessaire de débattre. Lors de son allocution devant les Papous et les Papous occidentaux à Abepura, Jayapura, Papouasie, le ministre de la Défense des États-Unis a invité les Papous à une société juste et prospère au sein de la République d'Indonésie fondée sur le Pancasila et la Constitution 1945. Avant de saluer le peuple de Papouasie et de Papouasie-Occidentale, le ministre de la Défense a rencontré des chefs traditionnels de cette région de Papouasie et de Papouasie-Occidentale. Ria Mizard a déclaré que depuis la proclamation de l'indépendance en 1945, toutes les colonies néerlandaises ont été reprises par le gouvernement indonésien légitime, y compris la Papouasie. En avril 2020, l'aéroport YIA est prêt pour les vols internationaux. Le directeur général de l'aéroport international Adi Sucipto, Agus Pandu Purnama, a déclaré que l'aéroport international de Yogyakarta IAEA était prêt pour les vols internationaux en avril 2020. Pendant ce temps, les vols antérieurs ont d'abord été déplacés d'Adi Sucipto à IAEA en janvier 2020. Pandu au bureau succursal de l'aéroport international Adi Sucipto a déclaré pour les vols internationaux, nous attendons toujours car il doit y avoir des paramètres pour la quarantaine d'immigration personnalisée, donc pour le matériel d'immigration, la quarantaine et les douanes. Ainsi, les vols internationaux à IAEA disposent de 2 mois pour préparer toutes les installations après le déplacement de tous les vols antérieurs d'Adi Sucipto. Ainsi, ce qui restait à Adi Sucipto n'était plus qu'un vol à courte portée utilisant un avion à hélice. Le régent de Bone Bolango, Hamim Pou, a déclaré que sa partie organiserait 50 festivals en 2020, inspirés des festivals de Banyuwangi, afin de faire progresser son secteur du tourisme. Hamim Pou a expliqué à Gorontalo que dans le développement du tourisme de Bone Bolango, son équipe était collaborée et examinait le potentiel du tourisme de Gorontalo. Par conséquent, il faut nécessiter le besoin de collaboration entre le gouvernement central et régional, le gouvernement de région et les hommes d'affaires du tourisme dans la gestion du tourisme de la région. Il a souligné que la diffusion du potentiel des destinations touristiques à Gorontalo était indispensable pour développer son secteur touristique. Gorontalo est réputé pour sa nature enchanteresse et sa culture fascinante. Par conséquent, les deux atouts doivent être correctement gérés pour soutenir le développement touristique de la région. Steven Chui, le directeur général de l'exposition Rit Panorama, espère que l'exposition maritime indonésienne de 2019 sera une fenêtre sur le monde pour connaître le développement de l'industrie maritime en Indonésie. Selon lui, cet événement visait à promouvoir les opportunités du secteur maritime indonésien et également à devenir un lieu de rassemblement pour les entreprises maritimes et la construction de réseaux. L'exposition qui aura lieu à Jakarta du 16 au 18 octobre sera organisée simultanément avec Indonesia Transportation Supply Chain and Logistics 2019. L'exposition qui se tiendra pour la 7e fois réunira 100 exposants de 7 pays, à savoir l'Indonésie, Singapour, la Chine, les Pays-Bas, la Thaïlande, l'Italie et la Grèce. Elle réunit 3000 visiteurs et délégations commerciales. Cela a été déclaré par Steven récemment lors d'une conférence de presse à Jakarta. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info est venue de Jepara, Java Central. La région Jepara est devenue la première ville en province Java Central qui a connu jeudi le phénomène d'une journée sans ombre colorée par des nuages nuageux. Jeudi, à 11h20, heure de l'Indonésie occidentale, sur la plage Kartini à Jepara, Java Central, le soleil est directement au-dessus de la tête humaine, sans aucune ombre. L'essai a également été vu à partir de bouteilles d'eau minérale placées à l'air libre où il n'y avait pas d'ombre. D'après les données de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, BMKG, le phénomène naturel du soleil sans ombre s'est produit à Jepara jeudi 10 octobre. Le 11 octobre, un jour sans ombre est apparu simultanément dans 15 régions de Semarang, Blora, Pati à Brebes. Ensuite, le 12 octobre, 8 régions de Sragen, Salatiga, Ungaran, Purwokerto à Banjarnegara sont apparues. Et le dernier était le 13 octobre, apparaissant sur la côte sud de Java Central, à savoir Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Banyumas, à Cilacap. Ensuite, l'info de Banda Aceh. Le ministère de l'Éducation et de la Culture a désigné la danse sining et la nourriture goutel de la région Aceh Central en province Aceh comme patrimoine culturel immatériel. Le responsable des relations publiques de la région Aceh Central, Salman Nouri, à Banda Aceh a déclaré jeudi que la détermination de deux sites de patrimoine culturel immatériel avait été effectuée par la mise des certificats par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, lors de la réception en soirée pour la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel. La danse sining est l'une des danses originaires des eaux plateaux Gayo. Elle présente de beaux mouvements énergiques et dynamiques qui décrivent et imitent les mouvements d'un oiseau Wo ou de tétra. La dernière, l'info de Makassar, Sulawesi Sud. Le gouvernement de Sulawesi Sud est prêt à collaborer avec l'Université Tasmanie en Australie par l'intermédiaire de l'Institut des études marines et antarctiques, IMAS, sous la forme de recherches et d'études visant à optimiser la gestion des ressources marines et halieutiques de Sulawesi Sud. IMAS est un institut réputé pour mener des activités de recherche-développement sur les ressources maritimes en Australie. Le gouverneur de Sulawesi Sud, Nurdin Abdullah, a déclaré jeudi à Makassar qu'il avait demandé à IMAS de collaborer avec le gouvernement de Sulawesi Sud et de l'Université Hasanuddin dans le domaine de la recherche et de l'aquaculture. En plus d'établir une coopération dans le domaine de la pêche, le gouverneur a également demandé à IMAS de mener des recherches et de développer deux autres secteurs potentiels à Sulawesi Sud. En réponse à la déclaration de Nurdin Abdullah, Terry Bailey, directeur exécutif d'IMAS, s'est dit prête à coopérer avec le gouvernement de Sulawesi-Sud dans le cadre de recherches et d'études visant à développer les ressources disponibles à Sulawesi-Sud. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 12 octobre. Le 12 octobre 1964, le lancement du vaisseau soviétique Voskhod 1. Le vaisseau soviétique Voskhod 1 a été lancé, transportant les pilotes Vladimir Komarov et Boris Yegorov, les premiers médecins de l'espace, et Konstantin Feoktistov, un ingénieur. Le vol en 16 orbites pendant 24 heures, 17 minutes, 3 secondes était le premier vol à plusieurs passagers. Le 12 octobre 1999, Pervez Musharraf est revenu au pouvoir au Pakistan après un coup d'État sans effusion de sang. Pervez Musharraf est un ancien président, premier ministre et chef d'état-major de l'armée pakistanaise. Pervez est arrivé au pouvoir le 12 octobre 1999 après un coup d'État et est devenu président le 20 juin 2001. Dans un sondage réalisé par le magazine Time en 2006 sur les personnes qui façonnent notre monde, Pervez est l'un des personnages au pouvoir au numéro 4. Au cours de la période du 12 octobre 1999 au 24 novembre 2002, Pervez a été premier ministre. Le 6 octobre 2007, il a de nouveau été élu président du Pakistan pour son troisième mandat. Le 24 novembre 2007, la Commission électorale générale du Pakistan a annoncé sa réélection à la présidence. Pervez a démissionné le 18 août 2008, menacé de mise en accusation par le gouvernement de coalition dirigé par Asif Ali Zardari, le mari de l'ancien premier ministre Benazir Bhutto. Le 12 octobre 2002, le bombardement de Bali. L'attentat de 2002 à Bali, ou attentat à la bombe, était une série de 3 attentats à la bombe perpétrés dans la nuit du 12 octobre 2002. Les 2 premières explosions ont eu lieu au Padispap et au Sari Club à la rue Legian à Kuta, Bali, tandis que la dernière s'est produite près du bureau du consulat américain, même si la distance est assez éloignée. Cette série d'attentats a été le premier à être suivi d'un attentat de moindre ampleur qui a également eu lieu à Bali en 2005. Il y a eu 202 morts et 209 blessés, dont la plupart des victimes étaient des touristes étrangers se rendant sur les lieux. L'équipe d'enquête conjointe de la police nationale et la police étrangère qui ont été constituées pour traiter cette affaire conclut que la bombe utilisée était un TNT pesant 1 kg. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Amboy non amani sekali. Hey dia tengok kita. Hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi. Amboy non amani sekali. Dia mengernyit. Amboy ma aku dicubit. Siapa dia? Oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku. Itulah gadis impianku.
Chanson intitulée Putri Remaja, chantée par Marcel. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. La rubrique suivante, voici Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en beau titre, le gouvernement forme une agence de gestion du Fonds pour l'environnement. Le gouvernement officiellement créé l'Agence de gestion du Fonds pour l'environnement, mercredi 9 octobre. Cet organisme est une agence de service public relevant du ministère des Finances. Cet organe deviendra l'un des mécanismes de financement de la protection et de la gestion de l'environnement pouvant être utilisé par diverses parties. Cette unité organisationnelle n'appartenant pas à l'échelon est chargé de la gestion des fonds environnementaux dans divers domaines, notamment la foresterie, les ressources énergétiques et minérales, le commerce du carbone et autres. Le conseil de gestion du fonds pour l'environnement devrait entrer en fonction le 1er janvier 2020 et impliquer 10 ministères ou agences de tous les secteurs. Dans sa mise en œuvre, il existe également un comité directeur qui fournira une orientation politique dans la gestion de l'Agence de gestion du Fonds pour l'environnement. Lors du lancement, le ministre de la Coordination pour l'économie, Darmin Nasution, a déclaré que cette agence avait pour mission de pouvoir appliquer les principes de transparence et de responsabilité dans la gestion de ces fonds, ainsi que de se conformer aux normes de gouvernance internationale. Darmin a souhaité que l'Agence de gestion du Fonds pour l'environnement pourra collaborer avec diverses parties et partenaires de développement, se développer et innover. L'objectif est d'explorer les ressources de financement pour financer les activités précaires. Le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que la création d'une agence de gestion du Fonds pour l'environnement était une étape concrète pour que l'Indonésie achève ses efforts de contrôle et de lutte contre le changement climatique. Le ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré, à l'instar de Siti Nurbaya, que les fonds alloués à l'environnement étaient des preuves concrètes pour le gouvernement de préserver la nature de toute une série de catastrophes potentielles. Le lancement de l'Agence de gestion de fonds pour l'environnement est une étape importante des efforts déployés par l'Indonésie pour préserver et protéger la durabilité environnementale. Selon Sri Mulyani, l'Agence de gestion du fonds pour l'environnement sera également utilisée pour maintenir l'élan de croissance économique nationale. Le ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le potentiel de gestion budgétaire de l'Agence de gestion du fonds de l'environnement atteignait environ 800 000 milliards de roupies. Selon Sri Mulyani, la gestion du budget par l'Agence pour la gestion du fonds pour l'environnement provient de plusieurs sources, notamment du fonds de reboisement et du commerce de carbone. Compte tenu du potentiel d'un budget géré et grand, le gouvernement recrutera des professionnels qui comprennent non seulement la gestion du fonds, mais également l'environnement. Chers amis, c'était mon Indonésie.
See the wild in dream.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson, dont le titre est « Kamu » qui signifie « Toi » chantée par Wendy Mark. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sous la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, voici le magazine Cultura.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant la cascade Kahatola à Halmahera West en province Moluk Nord. La cascade Kahatola située sur l'île Kahatola dans le district Loloda en région Halmahera occidentale, en province Moluk Nord, a la signification de faire saillie dans la mer. Pour vous rendre à la cascade Kahatola, vous devez louer un bateau rapide au port Jailolo. Le trajet dure environ 3 heures, mais s'il y a de grosses vagues, il peut durer 4 heures. Bien que le voyage soit assez fatigant, le paysage le long de l'ouest de Halmahera est magnifique et garanti d'éliminer la fatigue car il vous offrira une vue magnifique sur la plage. En arrivant à la cascade Kahatola, vous serez sûrement émerveillé par les hautes falaises abruptes qui entoure l'île. Dans l'une des falaises abruptes se trouve une belle cascade Kahatola. Fait unique, la cascade ne provient pas d'une rivière, mais de l'eau recueillie dans un bassin. L'eau provient des nappes phréatiques collectées dans les eaux de pluie, des gouttes de rosée qui s'infiltrent dans le sol ainsi que l'humus. Cette cascade coule également toute l'année et ne connaît pas de saison. Mais pendant l'été, bien sûr, le débit d'eau diminue et ne coule généralement qu'au milieu du roc. Contrairement à la saison de pluie, l'eau coule plus rapidement. Les cascades qui découlent de roches abruptes iront directement dans la mer. Il n'est pas conseillé aux visiteurs d'aller directement dans l'eau lorsqu'ils atteignent la cascade. Ils apprécient tout à fait la beauté de la cascade du bateau. S'ils souhaitaient toujours essayer de se mettre à l'eau, les visiteurs doivent utiliser une bouée, car la profondeur de l'eau de mer atteint 4 mètres. Les visiteurs qui peuvent entrer dans la cascade doivent être capables de nager. Si vous êtes à Moluk, prenez également le temps de visiter Halmahera West. Ici, tout en admirant le magnifique paysage, vous pourrez également goûter la nourriture et les boissons typiques de cette région. En plus de cela, à Loloda, vous pouvez également plonger. C'est garanti que vos vacances seront très mémorables. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
pertama aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri.
Mengapa, kamu berubah.
Dulu kurus, sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh,
mengapa,
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 mengapa
banyak keraguan dalam
hatimu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Hi-Fi, dont le titre est « Satu Satunya » ou en français « Les Seuls ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes de l'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur la boisson de la santé, innovant parmi les étudiants de Medan, qui a remporté un prix en Malaisie. Les bonnes nouvelles viennent des enfants de la nation. Un groupe d'étudiants de 3 universités à Medan, Sumatra Nord, a remporté des prix dans 2 catégories au World Invention Competition and Exhibition en Malaisie. 5 étudiants membres de la communauté Maison d'Internet ont réussi à innover un produit à base de boissons de la santé appelé Soy Fera. Les 5 étudiants étaient Aflah Fajari de l'Université de Sumatra Nord, USU, Nurlina Maharani et Yurit Audina de l'Université Islamique d'État de Sumatra Nord, UINSU, et Rafika Utami et Fanny Fashiri de l'Université d'État de Medan, UNIMED. Nurlina Maharani de l'Université Islamique d'État de Sumatra Nord, UINSU, a expliqué que Soy Fera est une sorte de poudre nutritive et enrichissant à base de boissons dont un ingrédient est le germe de sorgho. Soy Fera en profite beaucoup. En plus d'être un produit local indonésien qui n'a pas été utilisé par beaucoup de gens, le sorgho a également une teneur élevée en glucides et en calcium. Soy Fera est utile en tant que substitut du lait d'origine animale à base de plantes, répondant aux besoins nutritionnels quotidiens pauvres en graisse et antioxydants. Selon Nurlina, elle et ses amis ont eu besoin d'un mois pour créer ce produit innovant à base de boissons de la santé. Ses recherches sont toujours simples. Ils ont effectué un test de grossesse d'un mois et prévoient de poursuivre leurs recherches sur ce produit. Ils prévoient également de mener d'autres tests auprès d'organismes de normalisation et de recherche de l'industrie alimentaire afin que les produits fabriqués soient réellement testés et que de nombreuses personnes puissent en profiter plus tard. Au World Invention Competition and Exhibition en Malaisie, 5 membres de la communauté Maison de l'Internet ont reçu la médaille d'or de Malaysia Young Scientist Organization. Dans la compétition, ils doivent concurrencer d'autres participants de différents pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, l'Angleterre, le Vietnam, la Thaïlande, la Turquie et la Corée Sud. Les juges viennent de ces pays. Le nombre de participants était 251 personnes. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan yang benar-benar ku inginkan, hanyalah kau untuk selalu di sini. Maukah kau tuh menjadi apa?
harapan untuk menjadi kenyataan.
Of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Voilà Malik and the Essential, dont le titre est Pilihanku, ou en français Mon choix. Nous continuons notre programme avec des informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette édition présente la chanson de Kroncong intitulée Terkenang, créé par Budiman BJ, chanteur et créateur de la chanson de Kroncong, qui était assez fiable en 1970. Cette chanson raconte des souvenirs du passé quand il était avec quelqu'un qu'il aimait. Au passé, tout était beau. Mais maintenant, la lumière de l'amour a disparu. Le cœur inquiet parce que la main est partie. Chaque fois qu'il se souvient de lui, les larmes coulent, les souvenirs seront toujours sauvés dans la mémoire. La chanson intitulée Terkenang, ou en français Se souvenir, a déjà été chantée par plusieurs chanteurs indonésiens de Kroncong, comme Mamik Marsudi. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Kroncong, dont le titre est Terkenang, interprétée par Mamik Marsudi.
Voice of Indonesia.
Ribu-ribu anak-anak lama memakan kaki seribu kali, seribu kali dilarang, dilarang.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.